L'histoire, c'est sur plusieurs périodes, c'est pas l'échelle d'une vie en fait.
Okay.
L'histoire, on reste souvent figé. Par exemple, on va dire Victor Hugues, c'est un salaud parce que il a servi en Guyane à la chasse aux noirs marrons. Mais on va oublier que Victor Hugues, comme justement il a formé toutes ces troupes de corsaires noirs et créoles, il a eu un rôle historique incroyable d'émancipation aux Amériques. Donc c'est ça aussi l'histoire, c'est être capable de voir la dimension historique qu'un personnage à un moment donné va atteindre et qui le dépasse lui-même. Et ça, c'est pareil pour ces corsaires noirs. Je veux dire, Victor Hugues, il armait ses troupes de corsaires, c'était pour aller effectivement établir la liberté et la République aux Amériques au nom de la France. Mais ça a quand même fait son idée. La liberté, c'est comme finalement les troupes coloniales qu'on servit durant la Seconde Guerre mondiale et qu'on fait les indépendances africaines. On peut pas embarquer des gens dans un processus de libération et après leur dire, ah bon non, finalement, maintenant tu retournes là où tu étais tranquillement, t'attends que ça se passe. Mais non, il y a justement des mouvements des mouvements qui s'engagent. Donc les corsaires, c'est des pirates en fait d'État. Pirates, c'est en fait des pirates qui agissent au nom d'un État. Moi, je suis en train de terminer mon premier roman sur les Garifuna et un grand corsaire qui s'appelait Francis Drake. C'est le corsaire de la reine Elizabeth en Angleterre. Fiction, mais qui part de faits réels. C'est-à-dire que ça part de trafic de drogue que j'ai vécu au Guatemala, où les Garifuna, les Indiens étaient impliqués, et les colons, enfin les colons, pardon, les Européens. Oups, le lapsus. Des Européens qui effectivement vivent au Guatemala et qui sont des trafiquants de drogue. Donc c'est pas des gens sympathiques à la base. Et ça part d'un parallèle avec un grand corsaire, un grand corsaire, pardon, justement Francis Drake, qui s'est allié aux Noirs Marrons au Panama et qui a détourné l'or des Incas que venaient de piller les Espagnols. Donc ce Francis Drake, les corsaires, les pirates, c'est souvent des personnalités marginales. C'est des gens qui coupent des jambes, qui volent des trésors, qui brûlent des curés. Donc c'est pas toujours des gens fréquentables, mais c'est toujours une image de rebelle. Et chez les corsaires et les pirates, on avait beaucoup de noirs. C'est-à-dire, en pleine période de l'esclavage, on avait même des fois des femmes. Donc c'est des sociétés libertaires avec le prix que ça suppose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des règles à suivre, etc. Mais il y avait un code de l'honneur qui était assez incroyable. Donc finalement, ces corsaires n'étaient pas forcément des gens aussi mauvais s'ils faisaient la guerre, hein, finalement, comme d'autres. Seulement, ils avaient un code de l'honneur. Et ils avaient cette notion de liberté au sein même de leur groupe qui était assez forte. Alors, je dis au sein même de leur groupe, du coup, ça rencontre les intérêts de certains noirs qui se soulevaient. Les premières révoltes de noirs sur Saint-Domingue en 1791, c'était les insurgés du Nord, c'était le groupe des Negros franceses, des noirs français. Ces noirs-là ne se soulevaient pas pour la liberté des noirs. Ils se soulevaient pour la liberté de leur groupe. Et il y avait à la tête de ça Jean-François Biassou et Toussaint Louverture. Seulement, ils se soulevaient pour l'intérêt de leur groupe, mais après, ils ont rencontré l'idéal de la Révolution française. Tout ça a fait une espèce de magma qui, au final, finalement, on ne se bat pas juste pour la liberté de son groupe, on se bat pour la liberté de tous les hommes. Donc c'est aussi ces étapes-là sur lesquelles je reviens dans mes recherches. C'est comment au départ on se bat, les noirs marrons, on se bat pour sa survie. Donc on s'échappe, on va se cacher dans les bois. Ensuite, lorsque c'est pas seulement l'Espagne et le Portugal qui détiennent les Amériques, mais il y a aussi la France, la Hollande, l'Angleterre qui s'y mettent, et ben les noirs marrons, ils trouvent là de nouveaux alliés. En Jamaïque, les Noirs marrons se battaient contre les Espagnols. Lorsque les Espagnols se font dégager de Jamaïque par les Anglais, les Espagnols vont se réfugier à Cuba et de Cuba, ils vont armer les Noirs marrons contre les Anglais. Donc les Noirs marrons vont bénéficier de la guerre entre colons pour justement faire avancer eux leur cause. Ils vont servir les troupes coloniales, mais ils vont faire avancer leur cause en tant qu'hommes pour avoir eux accès à la liberté, accès à des privilèges. Et de fil en aiguille, ça va rencontrer justement la notion de liberté universelle, l'abolition de l'esclavage, et donc là la liberté pour tous les hommes. Donc c'est pas un jour Sonthonax et Paul Verhaelst qui débarquent à Saint-Domingue et qui disent ah on va abolir l'esclavage. Est-ce que les Noirs vont comprendre ce que ça signifie? Les Noirs et les mulâtres depuis des siècles étaient déjà dans ce processus de libération. Donc on n'a eu qu'une concordance d'intérêts à un moment donné, c'est ça l'histoire, c'est ça la force de l'histoire. C'est comprendre comment des intérêts se rencontrent à un moment donné, pourquoi ils se rencontrent et pourquoi ça fait boule de neige. c'est que ça vient de loin. Ça vient pas comme ça. Donc c'est effectivement, vous avez très bien fait d'appuyer sur ces contradictions. C'est justement ces contradictions qui font que là, on a des choses incroyables à comprendre en termes historiques, en termes de dynamique, d'alliance, de contre-alliance, de pourquoi, de comment, et ce sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.